Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Bertille Bourdon, mais aussi Hélène Lefrançois, Margot Leridon et Rosalie Suc, réalisée par Vincent Abouchard et mise en onde ce matin par Élise Le. Premier temps d'une nouvelle série consacrée aux solutions pour mettre en œuvre la paix, pour faire taire les armes. Nous nous demanderons s'il est possible d'acheter la paix par des politiques d'aide au développement. On s'intéressera en particulier à l'Afrique. On prendra la direction également de l'Ukraine pour voir si 5 ans après les accords de Minsk, la paix est enfin en ligne de mire. Enfin, nous nous intéresserons à la question des embargos sur les armes, trop souvent piétinés comme on le voit notamment du côté de la Libye ou encore du Yémen. Mais ce matin, direction le Proche-Orient, Israël-Palestine, le plan Trump ou la bombe à retardement, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Je ne l'accepterai en aucun cas. Je ne veux pas qu'il soit écrit dans mon histoire ou dans celle de mon pays que j'ai vendu Jérusalem. Nous annonçons ici que nous rompons toutes les relations avec vous, Israël et avec les États-Unis. Nous avons dit la même chose à l'Amérique, nous rompons, y compris les liens sécuritaires.
Cela ne nous donne aucun droit en tant que peuple palestinien. Alors bien entendu, nous rejetons cet accord du siècle, nous voulons le droit au retour.
C'est honteux d'essayer de supporter un tel accord.
Nous appelons les factions palestiniennes à l'unité face à l'accord du siècle. Concernant cet accord, nous, les Palestiniens, nous le rejetons en bloc, dans tous ses détails, ses décisions et ses plans.
La réaction de Mahmoud Abbas, du président de l'autorité palestinienne, et puis également de Palestiniens depuis Bethléem jusqu'à Gaza. Alors que jeudi dernier, le conseiller spécial du président américain, Jared Kushner, défendait son plan de paix devant le Conseil de sécurité, au même moment à Jérusalem, les réactions palestiniennes commençaient à se faire sentir, notamment avec cette attaque à la voiture bélier contre les forces armées israéliennes. En préparation depuis près de 3 ans, le plan concocté par le gendre de Donald Trump s'est révélé très largement favorable à Israël, puisqu'il entérine sa souveraineté sur la vallée du Jourdain, l'annexion des colonies, et fait de Jérusalem la capitale exclusive de l'État hébreu. Très rapidement, les différents mouvements palestiniens l'ont rejeté en bloc, depuis le Fatah du président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas jusqu'au Hamas, qui contrôle la bande de Gaza depuis 2007. Le plan de paix de Trump aura-t-il pour effet de réunifier un camp palestinien largement divisé depuis la guerre fratricide qui a éclaté suite aux élections législatives de 2006 ? Permettra-t-il de redonner de l'assise à un pouvoir en pleine crise de légitimité ? Et d'ailleurs, comment les citoyens palestiniens pourraient-ils réagir à ce plan de paix? Est-ce qu'il aura pour effet de leur faire accepter ce rapport de domination imposé par Israël? Ou au contraire, pourrait-il réveiller leur colère? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Stéphanie Latabdala. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes historienne, politiste et puis chercheur aux séries de Sciences Po. À nos côtés également Jean-Paul Chagnolo, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes professeur émérite d'université puis président de l'IREMO. Je rappelais dans mon introduction que la semaine dernière, il y a eu cette attaque à la voiture bélier qui a fait 14 blessés, dont 12 soldats israéliens dans le centre de Jérusalem. L'armée israélienne et les services de renseignement intérieur ont procédé à l'arrestation du responsable. Jusqu'où peut-on corréler cette attaque au plan Trump? Et est-ce qu'il faut s'attendre à ce que d'autres surviennent dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Stéphanie Latabdala.
Écoutez, il est difficile de prévoir l'ampleur des réactions, on va dire, de type violente qui vont pouvoir avoir lieu ou pas. Oui, on peut corréler cette attaque évidemment au plan Trump. Je pense que ça a réveillé en fait une colère, une opposition forte qui est existante, hein, qui est latente dans les territoires occupés à Jérusalem depuis longtemps. On a eu ce petit soulèvement en 2015 qui s'est un peu éteint petit à petit, mais qui n'a jamais été complètement éteint, et qui consistait aussi dans des attaques au couteau, à la voiture bélier, etc. Donc on va dire que ça réveille ce mécontentement, et surtout autour de Jérusalem aussi, avec cette inquiétude vraiment forte, avec la remise en cause du statu quo, hein, qui est un des résultats, en tout cas, de ce plan Trump. Enfin, la volonté de remettre en cause ce statu quo, puisqu'il permet maintenant, il permettrait également aux Juifs d'aller prier sur les esplanades des mosquées, ce qui n'est pas le cas. Il n'y a que les musulmans qui ont le droit d'y prier, bien que tous peuvent s'y rendre.
On reviendra évidemment sur cette question particulière de la capitale. Jean-Paul Chagnolo, comment est-ce que vous voyez les choses? Parce qu'il y a évidemment tout un spectre de réponses possibles, depuis des attaques, disons, sporadiques, dramatiques, mais sporadiques, non coordonnées, jusqu'à un grand mouvement de révolte, pourquoi pas une troisième intifada. Ça ne sera pas la première fois qu'on parlera d'une troisième intifada, mais où est-ce que vous voyez, vous, dans ce spectre-là de réponses, où est-ce que vous voyez le curseur?
C'est difficile à dire, parce que justement... Je crois qu'il y a une situation structurelle qui produit, comme vous l'avez évoqué, de la désespérance, mais depuis longtemps. Et quand on regarde les réactions aujourd'hui en Palestine, par exemple dans la vallée du Jourdain, il y a un certain nombre de gens, le maire de petits villages qui sont dans la région, disent « bon, ça va rien changer pour nous, puisque de toute façon, nous sommes déjà de facto dans une annexion. C'est vrai qu'on peut... Il y a certains moments, on pouvait même plus entrer quand on est palestinien dans la vallée du Jourdain. Elle a été entièrement phagocytée de toutes les manières possibles. Et donc, pour eux, il y a... Que peuvent-ils faire? Il y a une espèce de haussement d'épaule. On est déjà dans l'annexion de facto. Pourquoi veulent-ils l'annexer sur le plan juridique? Bon, maintenant, dans d'autres endroits, parce que je crois que c'est vraiment différent sur les endroits. À Jérusalem, il y a toujours une tension, parce que là, c'est une pression quotidienne, constante. Vous avez rappelé à juste titre l'affaire des portiques, avec tout ce que ça a produit, l'affaire des couteaux. Et là, faut jamais oublier, il y a une dimension aussi démographique, il y a une dimension symbolique, fondamentale à Jérusalem, il y a une dimension démographique. La vieille ville, elle est quand même composée à 85 ou 90% de Palestiniens. C'est-à-dire que le cœur du cœur est complètement palestinien. Il suffit de se promener dans la vieille ville pour s'en rendre compte. Donc on a là, évidemment, une tension palpable. Il y a une densité humaine aussi considérable dans les quartiers musulmans, moins dans les quartiers chrétiens et moins encore dans le quartier juif. Donc on a évidemment là une tension qui est liée à cette situation. Et si on va à Hébron, la situation est déjà absolument inacceptable avec ces colons qui sont plein cœur. Et donc là, les réactions sont très, très vives. Et puis si on va à Gaza, bon, Gaza, c'est encore un autre cas de figure. C'est un enfermement complet que chacun connaît, mais dont personne ne comprend l'importance, la densité, la gravité et au fond, la désespérance absolue. Parce que c'est un enfermement complet. Il y a des gens, des jeunes qui n'ont jamais sorti de Gaza. Donc à partir de là, cette situation du plan Trump, ça vient par-dessus. Mais pour l'instant, ça n'a rien de concret. Ça suscite des réactions immédiates. Mais en même temps, il y a encore rien de tangible. C'est une espèce d'incertitude qui vient rajouter, évidemment, à toute cette situation que je viens de décrire.
Ça ne change rien, disait Jean-Paul Chagnolo, Stéphanie Latabdala. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu de réaction massive dans les premières heures. On attendait, on craignait que la rue palestinienne, c'est comme ça qu'on le dit de façon un peu réductrice, mais réagisse dans les premières heures. Non, ça n'a pas tellement bougé.
Non, les réactions ont été relativement mesurées et je pense que c'est effectivement dû au fait que ça vient entériner un état sur le terrain. Donc, alors évidemment, c'est chargé d'effets parce que cet entérinement aura des effets pour le coup, hein, des effets bien clairs au niveau du statut juridique. On peut penser par exemple au statut juridique, ça aurait des effets du statut juridique des Jérusalémites par exemple, de ceux qui sont du côté de l'autre côté du mur ou du côté on va dire israélien du mur. Donc il y a toute une série d'effets, hein. On peut pas dire qu'il y en aurait pas, mais aujourd'hui ça ne change pas la situation sur le terrain qui est celle-ci. Ça lui donnerait une en gros un solde de tout compte, quoi, c'est-à-dire en disant voilà, la situation qui est là aujourd'hui sera en gros la situation qui est maintenue. Et encore, je répète, sur certains aspects il y a quand même une remise en question du statu quo et notamment sur Jérusalem. Donc il y a quand même, donc on peut comprendre ces réactions relativement mitigées là-dessus. Après, je pense que les gens quelque part n'y ont pas complètement cru, n'y croient pas complètement à la possibilité d'applicabilité de ce plan pour plusieurs raisons. D'abord parce que qui l'annonce, quelle légitimité ont les États-Unis et Israël à faire un plan unilatéral en contradiction totale avec le droit international? Qui les soutiendra? Même si les Palestiniens sont pas dupes, le soutien de la communauté internationale n'est pas non plus toujours à la hauteur.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Mais il y a quand même, et puis la manière dont il a annoncé, par exemple, les erreurs de Trump, qui au lieu de dire Al-Aqsa, dit Al-Aqwa, enfin, ça paraît ridicule, mais pour les gens, il y avait quand même un aspect...
Un manque de crédibilité.
Il y avait un manque de crédibilité et presque un aspect un peu... c'était tellement énorme. Ouais. En fait, c'est tellement énorme que quelque part, les gens, à un moment donné, ont eu un temps de réaction.
On n'y croit pas. En même temps, on y croit suffisamment côté palestinien, Jean-Paul Chagnolot, pour évoquer la possibilité de suspendre la coopération sécuritaire avec Israël. On l'entendait d'ailleurs dans l'extrait qu'on a choisi là. C'est un levier de pression du côté de Mahmoud Abbas ou c'est seulement des paroles et jamais on n'envisagera de suspendre cette coopération sécuritaire?
Oui, je crois qu'il y a plusieurs choses. Alors, je crois qu'on est aujourd'hui dans une phase d'attente. Il y a quelque chose qui a été annoncé, qui va tellement loin qu'au fond, effectivement, on peut se poser la question de sa crédibilité, d'autant que même la Ligue arabe, on annonçait que les États arabes ne diraient rien, la Ligue arabe a dit non, les Nations Unies sont prononcées, l'Europe, qui est quand même pas, c'est quand même pas des gauchistes excités, ont quand même dit les choses très claires.
Oui, attendez, du côté de l'Europe, on est quand même assez divisé, du côté de la Ligue arabe, on a même des voix qui disent, il faut quand même écouter l'option proposée par les États-Unis.
C'est l'histoire de votre verre que vous avez là devant vous, à moitié plein, à moitié vide. C'est vrai qu'on peut espérer qu'ils étaient beaucoup plus fermes, mais en même temps...
On a connu des soutiens plus francs,
Mais je suis pas en train de dire que la Ligue arabe s'est montrée comme un seul homme dans une conviction absolue que c'était non. Mais tout de même, si vous regardez les déclarations des uns et des autres, ils ont été obligés malgré tout de prendre une position dans un communiqué. Qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite? Et surtout, on va pas évidemment évacuer les contradictions et les faux semblants. On est bien d'accord là-dessus. Mais je veux dire, c'est tout de même pas ce qu'on attendait tout à fait. Les Européens ont eu une déclaration quand on les connaît, c'est-à-dire pusillanime. Ils ont eu une déclaration relativement claire. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je crois que plus on regarde de près ce plan Trump, moins on s'aperçoit que c'est quelque chose d'inacceptable. Et on dit le deal du siècle, mais c'est véritablement le hold-up du siècle. Parce qu'on parle beaucoup de l'annexion de la terre, mais on n'a pas assez parlé de l'annexion des eaux territoriales, par exemple. Quant à la coopération sécuritaire, si j'ai une seconde, la coopération sécuritaire... Abbas est coincé, parce qu'il en a besoin malgré tout, c'est-à-dire qu'il l'a répété 10 fois, est-ce qu'il le fera cette fois-ci, j'en suis pas sûr, parce que c'est tout à fait un basculement complet, ça veut dire qu'on revient à une situation qui serait de la pure occupation sans collaboration, et ça c'est pas donné, et c'est pour ça que je parle d'une période de transition, attendons quelques temps, quelques jours, quelques semaines, pour voir comment les choses vont se cristalliser, mais pour le moment, on aurait tort d'avoir des conclusions trop rapides.
Stéphanie Latabdelah, il y a quelques jours, l'ancien Premier ministre israélien Ehud Olmert et Mahmoud Abbas, pardon, ont annoncé la présentation d'un nouveau plan alternatif. Ça va être là bientôt, là, au Conseil de sécurité. Ce sera la Tunisie qui va le présenter, qui est non membre permanent du Conseil de sécurité. Qu'est-ce qu'on doit attendre de ce plan-là?
Alors, juste dire quelque chose sur la coopération sécuritaire. En effet, c'est un peu le dernier bastion qui remettrait même en question l'existence même de l'autorité, ce que souhaite d'ailleurs une majorité de la population aujourd'hui, hein, je crois. Mais que évidemment Mahmoud Abbas n'utilisera. Et d'ailleurs, il l'a dit, il est un peu revenu. Hein, il a un peu édulcoré ses premières déclarations ces derniers 2 jours, en disant que ce serait au cas où c'est mis en œuvre. Par contre, je voulais dire quelque chose. Je pense qu'il y a un bras de fer qui est quand même à l'œuvre sur la question économique. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il remettrait en cause les accords d'Oslo, et il est en train de remettre en question, plus ou moins, d'essayer, parce qu'il est aussi très pieds et poings liés, d'essayer de remettre un peu en question les accords de Paris et les modalités des échanges avec l'économie israélienne, afin de réduire la dépendance vis-à-vis d'Israël en termes économiques, pour avoir une sorte de plus grande indépendance de type économique, et il y a un vrai bras de fer qui se joue en ce moment sur les importations, les exportations entre Israël et la Palestine. Et voilà, je pense que c'est un élément important. Après, qu'attendre de ce plan qui serait présenté donc par Olmert et Abbas? Je pense qu'ils vont se réaligner sur le droit international, ils vont se réaligner sur des initiatives anciennes, comme si tant est qu'ils le fassent ensemble, hein, ça c'est pas encore complètement sûr.
C'est pas acté qu'ils le présentent ensemble?
J'ai pas vu, j'ai vu qu'il y avait des rumeurs là-dessus, mais j'ai pas vu une affirmation. En tout cas, ils se mettront sûrement sur le droit international, et ils iront peut-être sans doute repêcher des points qui avaient été évoqués lors de l'initiative de Genève en 2003, ou des points précédents. Donc là où on est sur, on va dire, une rétrocession des terres de Cisjordanie Cisjordanie qui n'est pas à 60% comme dans ce plan, mais plutôt à 94-96 avec des échanges de terres, avec la question d'une Jérusalem qui serait divisée selon des lignes ethniques, qui serait une capitale pour les deux États, et toute une série de choses qui avaient été discutées précédemment. Je pense qu'ils vont reprendre ce genre et qui sont évidemment une proposition beaucoup plus en accord avec le droit international.
Jean-Paul Chagnolot, à la fois sur le plan alternatif qui pourrait être présenté très bientôt, est-ce qu'ils ont raison de proposer un plan alternatif ou est-ce qu'ils n'ont pas raison? Jared Kushner a dit mais j'invite Abbas à lire mon plan et à me dire avec quelle ligne il est d'accord, quelle ligne il n'est pas d'accord, mais à rentrer dans une phase de négociation. Est-ce qu'ils ont raison du coup de proposer un projet alternatif ou est-ce qu'il ferait mieux de prendre celui-ci quitte à en rejeter une partie, en accepter une autre?
Ça, c'est une question politique très très importante, évidemment. On peut imaginer une négociation à partir de ce texte. Enfin, c'est vraiment, on part de très 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 loin, puisque en fait, c'est totalement asymétrique, comme vous l'avez noté, quoi. Donc, il y a deux trois points qui sont intéressants dans ce plan. Par exemple, les échanges de territoires, des choses comme ça. Mais il y a des choses qui sont totalement inacceptables et qui sont pas négociables. Le fait que, comme je l'évoquais tout à l'heure, mais je le redis parce que c'est important, que les eaux territoriales au large de Gaza, qui comprennent des gisements de gaz très importants, soient carrément dans le plan promis aux Israéliens, ce qui est un hold-up du siècle. Donc rien que ça, c'est difficile de partir un tel texte. On pourrait l'imaginer, mais ça paraît difficile.
Ce qui par ailleurs est complètement en désaccord avec le droit international.
Mais bien sûr, donc ça c'est une posture politique qu'on peut imaginer, qui est une option, mais à mon avis c'est pas la bonne. La bonne c'est de repartir du droit international. Le plan alternatif, ça serait quoi? Ben c'est de d'appliquer les résolutions. Il y a une résolution fondamentale qui rappelle toutes les autres, qui est la résolution 2334 du 23 décembre 2016, qui redit tout, y compris le plan que l'Arabie Saoudite avait développé en 2002, en 2008, en 2010, qui avait été accepté sur le principe par beaucoup, notamment les Américains à l'époque. Bon, c'est ça le plan alternatif, c'est revenir.
C'est la position d'Abbas, ça?
Bien sûr.
De revenir à ses points.
Bien sûr, il revient. Enfin, c'est sa base. Après, évidemment, on peut négocier, mais c'est la base.
Non, mais je ne sais pas si ça l'est, et en tout cas, visiblement, non. Dans la tête de Jared Kushner, c'est pas clair, puisqu'il a dit précisément, mais je ne sais pas ce que veut Abbas.
Dans la tête de Kushner, rien n'est clair. Un journaliste américain lui pose la question, est-ce que vous connaissez Yossi Belin, qui était un des grands négociateurs des accords de Genève? Il dit, je connais pas. Il connaît rien de l'histoire, donc faut pas se référer à Kushner, c'est une blague. Malheureusement, cette blague
a du
sens.
Non, bien sûr, mais qui s'occupe des négociations.
Non, parce qu'il est aujourd'hui en ce moment. En position de force, il le sera demain. Il est démonétisé, il suffit d'écouter. Donc je pense que le plan alternatif, c'est de revenir au droit international, à partir duquel on peut négocier, bien entendu. Mais je crois que c'est ça qui est fondamental. Ils ont mis, encore un mot, ils ont mis 30 ans, les Palestiniens, pour entrer dans le droit international. Ben, il faut qu'ils y restent. N'oubliez pas que, par exemple, la résolution 242 de 1967 ne dit même pas le mot palestinien. Elle parle des réfugiés et point de la ligne. 30 ans plus tard, il y a tout dans les textes que je viens de citer. Donc voilà, c'est ça le plan alternatif. Et la grande chance et la force des Palestiniens aujourd'hui, c'est d'avoir pour eux le droit international. Et c'est pour ça que les différentes organisations, l'Europe, la Ligue, tout ça, ils sont quand même embêtés parce qu'il s'agit de démolir, déstructurer le droit international. Et si on démolit le droit international sur des principes aussi fondamentaux que le principe de non-admissibilité, de l'acquisition de territoire par la force, c'est tout le droit international qui est mis en pièce et avec tout ce que ça peut impliquer au niveau global, au niveau
sauf
national.
Sauf que parfois, on n'a pas le choix et on a beau vouloir se défendre sur le droit international, on n'y arrive pas. Bah non, c'est, regardez, par exemple, sur la question de la Crimée, c'était le rattachement était contre le droit international et pourtant,
de
facto, il faut bien...
C'est pas parce qu'on a cédé à un moment qu'il faut toujours... Non, vous voyez, c'est un enjeu majeur qui dépasse la question israélo-palestinienne.
Stéphanie Latabdala.
Je pense qu'en effet, Mahmoud Abbas est très clair depuis longtemps sur le droit international.
Sur ce qu'il veut.
Oui, il est très clair. Les frontières de 67, etc., avec des petites négociations en effet de territoire et Jérusalem comme capitale partagée, etc. Il s'est aligné sur le droit international. Toutes ces démarches depuis des années maintenant sont auprès des instances internationales. Faire reconnaître la Palestine comme État. Il mobilise maintenant la Cour pénale internationale. Donc en fait, c'est là-dessus, lui, il est extrêmement clair. Maintenant, il faut quand même dire...
Il y a un point, pardon, sur lequel, de fait, il pêche, c'est qu'il n'arrive pas à rassembler les conditions pour pouvoir défendre l'intérêt des Palestiniens. Je veux dire, il n'est pas en capacité de se mettre, peut-être parce qu'il ne le veut pas, en tout cas, il n'est pas à la table des négociations, comme ses prédécesseurs, comme Arafat. Il n'est pas en capacité aujourd'hui de défendre l'intérêt des Palestiniens.
Il faut voir avec qui on négocie, en fait. Je ne crois pas que...
La partie n'était pas simple pour Arafat non plus.
C'était différent. Déjà, le rapport de force général était différent. Globalement, on sortait de l'intifada, etc. Voilà, bon, c'était complètement différent. Là, on a quand même une administration qui n'entend pas. On a vu, enfin, si on regarde comment ce plan a été, si on regarde un historique court, on a déjà une administration américaine qui se désengage économiquement de la Palestine, on va dire. Elle coupe ses aides à la coopération. Ses aides de coopération, elle coupe l'aide à l'UNRWA, elle met en fait quand même déjà l'autorité palestinienne dans une situation compliquée. Ensuite, elle prend toute une série de décisions qui amènent la décision sur Jérusalem, la décision sur le Golan, etc., qui amène en fait finalement à exercer une pression extrêmement forte et à afficher clairement quelles vont être les intentions. Donc du coup, on est arrivé à une rupture totale des relations avec les États-Unis et à Mahmoud Abbas qui dit je ne reconnais pas l'acteur américain comme quelqu'un qui est capable de faire l'intermédiaire dans les négociations. Mais que dit Mahmoud Abbas? Il en appelle à une plus grande collégialité internationale, soit au quartet, soit au-delà dans l'arène internationale. Et maintenant la question, c'est effectivement, les acteurs internationaux, comme il s'agit de bafouer le droit international, sont obligés de s'aligner. Mais maintenant, quels vont être réellement les leviers en termes de rapport de force qu'ils vont mobiliser? Ils en ont des leviers. Depuis le vote de cette résolution que vous rappelez, la 2334 de décembre 2016, il avait été inscrit l'idée de la différenciation des produits venant des colonies par rapport aux produits israéliens, étiquetage de ces produits. Ensuite, il y a toute une liste d'entreprises installées dans les colonies qui a été faite par les Nations Unies et qui n'a pas été révélée. Donc maintenant, est-ce que les gens qui souhaitent défendre le droit international vont aller jusqu'à être réellement opérationnels sur, par exemple, des mesures comme celle-ci, qui restent pour l'instant très peu appliquées, ou pas? C'est toute la question qu'on peut se poser.
Jean-Paul Chagnolo, à la fois sur la question de la responsabilité de Mahmoud Abbas, mais aussi sur sa légitimité. Ça fait 15 ans qu'il n'y a pas eu d'élection. Est-il l'homme de la situation? Est-il aujourd'hui en capacité de négocier un plan de paix quel qu'il soit?
J'ai eu il y a quelques semaines des conversations avec des hauts responsables palestiniens, des membres du gouvernement, et je les ai sentis complètement désemparés. Désemparés, alors je leur ai dit, mais votre problème, c'est la légitimité. Qu'est-ce que vous représentez aujourd'hui? Les sondages indique qu'il y a une grande majorité de gens qui voudraient quelqu'un d'autre qu'Abbas, etc. Et c'était une discussion assez intéressante, parce qu'ils ont très, je dirais pas volontiers accepté, c'est pas ça, mais ils ont reconnu l'idée qu'il fallait absolument une légitimité. Et comment est-ce qu'on reconstitue une légitimité? Il n'y a pas 50 moyens, que par l'élection. Alors on a une discussion, et je disais, l'élection centrale, comme en France, après tout, c'est la présidentielle. Faites une présidentielle. Et les hauts responsables ont dit, bien sûr, on va faire cette présidentielle.
On
était à quelques semaines
Ça fait longtemps qu'on en parle. On avait parlé d'un vote en 2014, en 2017.
C'est ça.
On dit là qu'il va y en avoir un. Il va y en avoir un.
Il m'assurait qu'au printemps de cette année, 2020, il y aurait des élections présidentielles. Autrement dit, ils ont tout à fait conscience de ça. Et je crois que, et quand on parle avec d'autres responsables politiques, je veux dire, par exemple en France ou ailleurs, la question de la légitimité est constamment reposer. Parce que il a une fragilité aujourd'hui, à la fois en interne et en international, qui fait que sa voix porte plus, ou porte pas beaucoup, quoi. Alors après, sur cette base-là, on peut discuter des options, mais les options, elles sont sur un socle. On peut pas dire je vais négocier ou pas négocier si sur le socle politique sur lequel on se trouve est quand même fragile. Et malheureusement, c'est ça pour les. Alors évidemment, en face, il y a Trump, en face, il y a Netanyahou, il y a la droite la plus extrême qu'on veut, et tout ça, bien sûr. Mais je pense qu'il y a aussi une responsabilité palestinienne. Ils ont besoin de se reconstituer, de se ressourcer et de réattaquer. Ils ont, au fond, dans les derniers mois, fait quelques initiatives, mais finalement assez éclatées. Une des très importantes et a beaucoup gêné Israël, et gêne aujourd'hui Israël, c'est la relation à la Cour pénale internationale. Parce que, en deux mots sur la CPI, c'est compliqué sur le plan technique, mais vous savez, on doit juger sur un nombre de crimes. Ce sont les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide. Il s'agit, disons, pour l'essentiel, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Or, la grande difficulté quand on va devant la CPI, c'est les preuves. Or, sur quoi va se baser les Palestiniens? Ce sont sur la colonisation. Donc là, les preuves, on les a. Le gouvernement israélien n'arrête pas de dire qu'il veut les colonies. Donc, on a là un axe très important qui gênait considérablement les Israéliens, et encore tout récemment. Donc voilà un axe qui était très positif, quoi. Mais malheureusement, ça reste un point parmi d'autres. et ils n'ont pas pris d'initiative, ils sont, je le répète, désemparés. Donc la première chose à faire, effectivement, c'est à mon avis,
c'est
ressourcer la légitimité de l'autorité palestinienne pour rebondir. D'où la contradiction, parce qu'ils peuvent pas en même temps couper la coopération sécuritaire, parce qu'à ce moment-là, ils déstabilisent l'autorité palestinienne. C'est une situation incroyablement compliquée, mais comme vous le disiez très justement, Arafat a été dans des situations infiniment plus complexes. Il n'existait pas, les Palestiniens, dans les années 60-70. Quand il est remonté à l'Assemblée Générale des Nations Unies pour la première fois, c'était en 1974. Donc on est dans une situation comme ça, en grand creux, mais on doit pouvoir s'en sortir. Surtout qu'il y a, et je termine là-dessus, un point fondamental, c'est que le droit international est en sa faveur aujourd'hui.
Stéphanie Latabdallah, sur cette question de la légitimité, surtout qu'en plus, je ne sais pas s'il y aura des élections, mais quand bien même il y en aurait, il n'est pas du tout sûr que le Fatah les remporterait. Le Hamas, visiblement, a l'air plutôt enclin, lui, effectivement, à aller vers des élections parce qu'il a des vues sur la
Cisjordanie.
Ça dépendra du candidat. Stéphanie Latabdallah, sur cette question de la légitimité qui est centrale, évidemment.
Oui, en effet, ces élections, d'ailleurs, à la fois législatives et présidentielles, ont été acceptées par le Hamas, qu'elles soient donc des élections générales. Il y a quelques mois, on attendait un décret présidentiel imminent qui tarde, le plan Trump est arrivé au milieu. Il y avait cette fameuse histoire de Jérusalem Est qui était mise en avant en disant on ne fera pas d'élection sans que ne votent les Jérusalémites, les Palestiniens de Jérusalem. Avec l'idée que les Israéliens ne les laisseraient pas voter. En 2006, ils ont voté. Ensuite, il y a eu des problèmes sur les candidats, mais ils ont voté. Donc, en fait, tout est suspendu à ça. Je sais aussi, par certains acteurs du Fatah, qu'il y a un think tank qui s'est créé par des acteurs du Fatah, des universitaires, toute une série d'acteurs aussi de la société civile pour exercer une pression très très claire sur Mahmoud Abbas pour que ces élections se tiennent et pour que cette histoire de Jérusalem ne soit pas un frein. C'est-à-dire pour essayer de trouver des modes alternatifs. Aujourd'hui, on peut trouver des modes alternatifs pour voter dans les consulats éventuellement, voter par des méthodes électroniques ou autres diverses qui pourraient essayer d'enlever, disons,
ce point de blocage
qui est un point de blocage qui permet aussi de... C'est un point de prétexte. C'est un point de blocage qui peut...
à l'ambivalence de cette
affaire. Oui, tout à fait. C'est un point de blocage qui peut être un point de prétexte pour Mahmoud Abbas. Et justement, de l'intérieur du Fatah, il y a des gens qui disent, nous ne voulons pas de ce point de blocage prétexte et donc nous allons essayer de faire pression et de faire du lobbying. Donc la question de la légitimité, évidemment qu'elle se pose, et elle se pose d'autant plus qu'une part grandissante de la société palestinienne, à tort ou à raison, pense qu'il faut changer de paradigme, sortir du référent des deux États sur les frontières de 67 pour aller sur cette fameuse question, pas forcément d'un État, enfin en tout cas il y a plein de schémas possibles, mais en tout cas sur cette histoire des mêmes droits dans un territoire de facto partagé, ce qui est vraiment le fait des nouvelles générations, ce qui à mon avis est aussi extrêmement risqué parce que de toute façon là, on n'a aucune base, notamment internationale ou autre, de soutien.
Il n'empêche que ce bloc est en train de prendre de la force.
Il prend de l'importance. On est à 20-30% maintenant de personnes qui sont sur cette ligne.
Jean-Paul Chagnolot, est-ce que justement ce plan Trump, il pourra avoir pour effet effectivement de renforcer ce bloc? Parce que ça fait longtemps qu'il y a cette division avec d'un côté ceux qui considèrent qu'il faut absolument aller vers cette solution à deux États et les autres qui se disent, mais non, concentrons-nous sur la question de la défense des droits et puis ensuite, on verra bien. Est-ce que ce deuxième bloc est en train de se renforcer et pourrait encore être renforcé par le truchement de ce plan?
Je pense que cette idée d'un État n'a vraiment aucun sens. Il est tout à fait normal, légitime, logique, que beaucoup de gens, et en particulier beaucoup de jeunes, disent la solution à deux États, ça ne marchera jamais, et réfléchissons à un État. Sauf qu'en disant ça, ils ne réfléchissent pas à ce que ça signifie vraiment. Le plan Trump pourrait donner un cadre très concret. Et à ce moment-là, on verrait ce que ça signifie. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça, concrètement, ça donne quoi? Prenons deux exemples. Le premier, annexion de la vallée du Jourdain. Ça veut dire annexion de plusieurs centaines de milliers d'habitants. On ne sait pas combien, évidemment, aujourd'hui, mais enfin un grand nombre. Quel serait leur droit politique? Zéro. Quelle serait la chance d'en avoir? Aucune chance. Donc la question viendrait se fracasser contre le mur de la réalité israélienne telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, si on va du côté de Jérusalem-Est, voilà aussi une annexion qui s'est faite il y a longtemps maintenant. Quels sont les droits politiques des Palestiniens de Jérusalem? C'est un certificat de résidence qu'on peut donner, qu'on peut retirer, avec un critère qui est le cœur de la vie, le cœur de vie. Si vous n'êtes pas, si par exemple, vous, à un moment donné, vous travaillez en dehors de Jérusalem, ou si vous vous mariez en dehors de Jérusalem, vous n'êtes plus au centre de ce cœur de vie, donc vous n'avez plus droit à cette carte de résidence, donc aucun droit. Donc ça veut dire des centaines de milliers de gens, aujourd'hui, qui n'ont pas de droit politique. Voilà ce que ça signifie. Donc dès qu'ils verraient ça, et le plan Trump rajoute un dernier élément qui est l'éventualité d'un transfert territorial de la région d'Oum El Fahem, où il y a environ 300 000 citoyens arabes israéliens qui seraient transférés dans l'État palestinien. Donc c'est un capharnaüm pas possible. Et puis un dernier mot, si je peux le rajouter, c'est important de rappeler la loi de juillet 2018, qui est une loi israélienne qui porte sur l'État-nation juif et qui fait des Arabes israéliens aujourd'hui, des 2 millions d'Arabes israéliens aujourd'hui, des citoyens de seconde zone et qui relègue l'Arabe à un statut tout à fait différent que celui qu'il avait auparavant. Donc les gens vont bien se rendre compte de ce que ça signifie aujourd'hui. Voilà, donc cette idée d'un État par rapport à deux États, c'est absurde. Et puis les deux États, c'est le droit international, une fois encore, c'est la seule possible.
Il y a un point de blocage majeur, c'est la question de Jérusalem que vous évoquiez tout à l'heure, Stéphanie Latabdallah. Je voudrais qu'on y vienne. Dans cet accord, il est prévu que la capitale du futur État palestinien, si État il y a, soit dans un quartier périphérique à l'est de Jérusalem, en dehors de la ville, le quartier d'Abou Dis.
Abou Dis,
Abou Dis est un faubourg de Jérusalem, l'un des principaux, que ses habitants voient comme inséparable de Jérusalem. C'est un des quartiers de Jérusalem, ça n'a jamais été une ville indépendante séparée. Tous les services de base manquent à Abou Dis. Vous ne trouverez pas d'urbanisation organisée comme dans les autres villes. Les services manquent, donc Abou Dis n'est pas apte à devenir la capitale, et nous voyons cette déclaration comme une illusion vendue aux Palestiniens et une perte de temps.
Voilà, extrait d'un reportage de l'AFP le 29 janvier dernier. Stéphanie Latabdallah, Abou Dis, qui deviendrait Al-Quds, le nom arabe de Jérusalem, jusqu'où ce problème de la capitale est bloquant aujourd'hui. Est-ce que c'est là aussi finalement que tout se joue, comme toujours finalement, comme depuis le début?
Oui, la question de Jérusalem, pour les Palestiniens, pour le monde arabe plus largement, est une question effectivement centrale. Ça me fait penser à cet usage des mots dans ce plan Trump qui est quand même assez, je pense qu'il faut souligner, c'est-à-dire vous aurez le droit d'appeler Al-Quds, qui est Jérusalem en arabe, mais ce sera dans un faubourg. Il n'y aura pas de remise en question du statu quo, mais les Juifs pourront venir voter. Vous aurez un État, mais il sera sans aucune souveraineté et sans quasiment aucun droit aux relations internationales, etc. Et je pense que, en effet, cette question de un État que vous évoquez, effectivement, là où ça bloque énormément, c'est que finalement, ça remettrait en question l'idée même du sionisme, puisque en termes de majorité démographique, à terme, les Juifs dans ce un État, dans cet un espace, et aujourd'hui, d'ailleurs, dans l'état des lieux, deviendrait assez vite minoritaire. Donc évidemment que ça pose un gros problème. Du coup, le plan Trump, quelque part, vient résoudre deux problèmes. Il vient résoudre ce problème-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est de facto dans un état, puis donc, à terme, il y aura le problème du sionisme. Et il vient résoudre une autre question, c'est celle de l'apartheid, qui a été quand même beaucoup quelque chose qu'on entendait peu, petit à petit, maintenant ça se dit, ça s'entend de l'intérieur même d'Israël par des acteurs de gauche, etc.
Et notamment depuis la fameuse loi de l'année dernière, de 2018.
Voilà, et cette question de l'apartheid qui je le rappelle, est considérée comme un crime contre l'humanité depuis la convention sur l'apartheid de 1973. Et donc là aussi, en termes de droit international, et donc ce plan Trump vient y répondre en mettant le nom État palestinien. Quand bien même il n'a pas les fonctions d'un État, ça permet de répondre à cette question qui pend au nez d'Israël.
Jean-Paul Chenu.
Vous dites qu'il répond, mais en fait, il aggrave. Il aggrave parce que
Mais il répond au fait d'être mis en cause pour apartheid.
C'est-à-dire que on est là dans une situation où si demain le plan Trump était, une partie du plan Trump était mise en œuvre, en fait, on serait dans l'apartheid.
Mais bien sûr.
Carrément, c'est ça qu'on veut dire. Donc,
oui, c'est
bien
ça
clair.
Que je veux
d'accord,
dire. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'il est.
Là, il installe des gens qui seraient dans des territoires annexés et c'est dans les territoires annexés, quelle qu'en soit la superficie, eh bien évidemment, les gens qui seraient, les Palestiniens, n'auraient aucun droit. Donc, il propose l'apartheid. On peut dire ça.
Il propose l'apartheid. Mais dans une situation, c'est ce que je disais sur l'utilisation des mots. C'est-à-dire qu'en mettant le mot État palestinien, il essaye de lutter.
Mais ça va quand même loin, parce qu'il propose l'apartheid. Il le met en place.
Ah, effectivement, ça, oui.
Alors, il y a d'autres endroits où, effectivement, il y a un problème aussi de droit qui se joue. C'est toujours celui des Palestiniens. C'est au Liban, par exemple. On va évoquer la question, justement, des réfugiés. Écoutez ce qu'il disait, c'était il y a quelques jours, après, évidemment, l'annonce de ce plan Trump du côté de Beyrouth.
On veut dire au président américain qu'il se trompe lourdement s'il croit qu'il peut bafouer les droits des Palestiniens.
La majorité du peuple arabe rejette le plan Trump, non seulement par solidarité avec le peuple palestinien, mais aussi parce qu'il concerne toute la région sur des sujets économiques, sociaux et culturels.
Extrait d'un reportage de l'AFP. Rappelons que les réfugiés palestiniens au Liban sont environ 174 000. C'est ce qu'indiquaient en tout cas les chiffres du Bureau central des statistiques palestiniens de 2017. Je parlais de problèmes de droit parce qu'il y a un problème d'accès notamment à l'emploi du côté du Liban qui pose un gros problème. Il y a deux choses sur cette question-là. C'est un, est-ce que jusqu'où est-ce que cette colère des réfugiés peut aller dans un pays qui, par ailleurs, connaît une crise politique majeure depuis des mois. Et qu'est-ce qu'il est prévu dans le plan Trump pour justement répondre à cette inquiétude du côté du Liban, c'est-à-dire à cette installation permanente de toutes ces personnes? Il y a une vraie crainte depuis toujours du côté du Liban. Qu'est-ce qu'on prévoit justement pour répondre à cette crainte? Stéphanie Latabdallah.
Alors par rapport aux réfugiés, le plan Trump prévoit des choses assez étonnantes. Donc déjà, par rapport à l'UNRWA, qui en gros est l'organe qui garantit le statut de réfugié, il est dit que les différentes modalités qui seront mises en place s'appuient sur la définition de l'UNRWA, mais que si le plan est refusé, alors la définition de l'UNRWA ne sera plus reconnue par les États-Unis comme une définition valide. Par rapport à ça, quand on regarde le volet économique du plan, les 50 milliards promis mais qui sont complètement conditionnés, donc là aussi je pense que en termes de faisabilité de ce plan, il y a vraiment beaucoup de choses à dire parce qu'il est pas très sérieux au final hein, dans ces annonces. Mais tout ça pour dire que sur ces 50 milliards, en fait, il n'y a que 27 milliards qui sont pour les Palestiniens, pour la Cisjordanie et Gaza. Il y a le reste qui sont pour les pays alentours, le Liban, la Jordanie et l'Égypte. Et là, effectivement, c'est l'idée des réfugiés qui est visée. C'est-à-dire, en gros, on veut contribuer au développement des pays alentours, en tout cas là je parle Jordanie et Liban, dans l'idée qu'il garde les réfugiés, etc. Et c'est très très clair, et il y a de l'ordre de 6, 7 milliards, 9 milliards pour l'Égypte qui sont prévus. Et alors moi, en tant qu'historienne, ça m'a fait terriblement penser à ce qui a eu lieu après 48, quand l'UNRWA a été mis en place, où la première idée était de réinstaller les réfugiés dans les pays alentours en mettant en place des programmes de développement de ces pays. Et quand je dis développement, c'est vraiment très étonnant dans le plan Trump. On voit des choses qui ont trait aux réfugiés, mais des choses qui n'ont pas trait aux réfugiés. C'est aussi une manière d'impliquer les pays alentours dans ce fameux plan Trump. Et pour l'Égypte, je reviendrai là-dessus, ça concerne pas tellement la question des réfugiés, c'est le développement du Sinaï, qui est aussi une vieille histoire qui est là depuis les années 50. Donc, je pense que dans ce plan Trump, la question des réfugiés est envisagée de ce point de vue-là.
Jean-Paul Chagnolot.
On revient en fait à une logique qui était celle des années 50. C'est-à-dire, c'est au pays qui accueille, entre guillemets, les réfugiés palestiniens, de les intégrer. C'était ça la grande litanie. Alors là, évidemment, on rajoute des sous, mais c'est ça l'idée. Puisque dans le plan, il est très clairement indiqué qu'il n'était pas question, à part quelques-uns peut-être, que ces réfugiés puissent revenir. Donc c'est une manière, évidemment, de gommer complètement la question des réfugiés. Et d'ailleurs, ce que Trump a fait depuis plusieurs mois, c'est qu'au fond, avant d'annoncer ce plan, il a gommé les choses. Il a décidé que Jérusalem serait reconnue par les États-Unis comme capitale éternelle. Il a supprimé toutes les aides à l'UNRWA, donc il a supprimé la question des réfugiés. Il a dit que les colonies n'étaient pas illégales, donc on peut faire des colonies. Il a dit que le Golan pouvait être annexé, c'était légitime, donc il légitimait l'annexion. Bref, on avait déjà depuis plusieurs mois les prises de position qui anticipaient sur le plan de Trump. Donc les réfugiés, pour lui, ça n'existe pas. Et pour Kouchner, dont on parlait tout à l'heure, c'est une idée évidente, les réfugiés n'existent plus, quoi.
On parle de Jared Kushner. Hein. Non, comment bon, on parle de Jared Kushner.
Personne ne ferait la confusion. Oui. Soyons sérieux. Et donc, voilà, je crois qu'on est dans cette situation. Mais sur le plan financier, c'est très important les chiffres que vous avez redonnés tout à l'heure.
50 millions.
Oui, 50 milliards,
pardon.
Soyez sur pas pingres. Ça, 50 milliards. Mais ce que je veux dire, c'est que, une fois encore, je remets sur le tapis ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est quand même le hold-up du siècle, parce qu'on parle des 50 milliards, mais on donne à Israël, enfin, on prétend vouloir donner à Israël, le gaz, ce qui représente quand même un gisement considérable et qui serait un levier très important du développement d'un État palestinien. Et ses eaux territoriales dépendent de Gaza. Ça, il suffit de regarder les cartes et c'était évidemment très clair. Et là, c'est encore une immense hypocrisie, bien entendu.
Oui, et sur ces 27 milliards qui resteraient aux Palestiniens, il faut bien imaginer que il y a toute une partie infrastructurelle, hein, les fameux ponts et tunnels qui doivent relier ces bantoustans et ce territoire morcelé, vont évidemment être construits par des entreprises probablement israéliennes ou internationales.
C'est sur 10 ans en plus.
Donc
une large partie qui est dédiée à ces territoires va aller à Israël.
Il y aura aussi beaucoup moyens de que ce soit gagnant-gagnant pour Israël tel que ça a été annoncé.
C'est un effet d'annonce, mais qui dans le détail en fait.
Et en plus, qui va payer et en plus, ça, je pense que c'est très important, dans ces 50 milliards, il y a une grosse partie en prêt. Ouais. C'est-à-dire, quand on regarde en détail, tout n'est pas du don, mais il y a aussi du prêt. Et en plus, qui va payer ? En plus, ce ne sont pas les États-Unis qui s'engagent sur cet argent. Donc, on peut quand même remettre en question.
La
faisabilité et le sérieux, finalement, de ce plan, quelque part.
Je vous propose d'écouter Michael Sfarad, qui est un avocat israélien, écrivain, activiste spécialisé dans la défense des droits humains. Vient de paraître, c'était très récent, hein, le 6 février de ce mois-ci, aux éditions Zulma, Le mur et la porte. Dans son livre, précisément, Michael Sfarad expose 50 ans de combat pour les droits de l'homme. Il y décrit les conditions d'enfermement des Palestiniens. Il y raconte comment il a tenté de les aider à travers des combats judiciaires devant les juridictions israéliennes pour récupérer leurs terres, pour récupérer leurs maisons, leurs droits. On va en parler avec lui. Et d'abord, on va évoquer le titre de cet ouvrage qui fait référence à une histoire assez révélatrice qu'il raconte en ouverture. Elle se déroule sur une colline au milieu d'un verger. Michael Sfarad discute avec deux de ses clients palestiniens. Ces derniers sont venus le voir parce qu'ils ne peuvent plus accéder à leur champ d'olive à cause du mur de séparation. Il va revenir sur cette anecdote et nous expliquer en quoi elle éclaire ce décalage qui peut exister entre son combat de juriste et l'attente de ses clients. Michael Sfarad.
This is a story that left me a little perplexed because
oui, effectivement, c'est une histoire qui m'a désarçonné. C'était en plein pendant la construction de cette clôture qui sépare les Palestiniens de leurs terres, de leurs oliviers, de leurs moyens de subsistance. Et pour moi, il a été évident dès le départ que cette clôture de séparation était un projet complètement illégal. Si Israël veut construire une clôture ou un mur, il peut le faire le long de sa frontière, mais pas en pénétrant sur les terres de ses voisins. Lorsque je me suis réuni avec ces deux clients, qui étaient les chefs de deux villages, j'étais ravi de pouvoir leur dire que je me ferais un plaisir de présenter un recours devant la Cour suprême israélienne pour exiger que le tracé du mur soit modifié et repoussé, c'est-à-dire vers la frontière internationalement reconnue entre Israël et la Palestine, la ligne verte. Et pourtant, ils ont répondu par une demande très concrète. Peut-être que nous pourrions demander à installer une porte qui nous permettrait de passer lorsque l'on nous y autoriserait, de passer ce mur donc, et de cultiver nos terres. Et à ce moment-là, la question qui m'est venue à l'esprit relevait du dilemme. Quels intérêts essayais-je de servir dans mon travail en tant qu'avocat ? Ceux des clients que je représentais ? À ce moment-là, le mieux serait effectivement d'obtenir rapidement une porte dans le mur. Ou bien, étant donné que je suis un avocat engagé dans le mouvement visant à mettre fin à l'occupation israélienne, suis-je au service de ce mouvement ? Et dans ce cas, peut-être ne devrais-je pas demander une porte car elle légitimerait le mur. Et depuis, c'est le genre de questionnement éthique ou de dilemme qui m'assaille toujours parce que je suis un avocat engagé et que je représente à la fois mes clients tout en essayant de défendre une cause plus large. Et parfois, ces deux intérêts s'entrechoquent.
Michael Sfarad, parmi les combats judiciaires que vous avez menés, celui concernant la colonie d'Amona. Après de longues années, la Cour suprême d'Israël va finir par ordonner l'évacuation de cette colonie d'Amona. On est en décembre 2014, qui va finalement être fait en février 2017. Racontez-nous un peu comment vous êtes parvenu à ce succès. Qu'est-ce qui a permis de gagner ce combat ?
It was a combination of
ça a été le résultat du travail d'une communauté très engagée. Les Palestiniens propriétaires de ces terres étaient prêts à se battre et à faire preuve de la patience nécessaire pour tenir pendant des années. Il y a une organisation israélienne des droits humains, Yashdin, qui a porté un soutien matériel et financier à la bataille judiciaire. Et enfin, tout cela a été aussi possible parce que le seul droit des Palestiniens que la Cour israélienne a dans une certaine mesure protégé par le passé c'est le droit à la propriété. Alors bien sûr, Israël a violé à maintes reprises les droits de propriété des Palestiniens, mais en matière de propriété privée et des expropriations pour installer des colonies, la jurisprudence de la fin des années 70, début des années 80, nous a permis de soutenir devant la Cour qu'il était impossible de légaliser une expropriation qui n'avait pas été effectuée officiellement par l'État. Si l'État s'en était chargé, nous aurions peut-être eu plus de mal au plan juridique. Mais les terres ont été confisquées par les colons. Alors attention, je ne voudrais pas que les auditeurs pensent que les colons n'ont rien à voir avec l'État. Bien souvent, les colons font ce que l'État veut faire, mais pensent ne pas pouvoir faire.
Michael Sfar, le jour de l'évacuation d'Amona, le Premier ministre Netanyahou annonçait la création d'une nouvelle implantation pour remplacer Amona, justement. Est-ce que ce combat contre la colonisation peut être gagné? Est-ce que vous n'êtes pas condamné, un peu comme Sisyphe, à pousser votre pierre au sommet de la montagne indéfiniment?
You know that Albert Camus said that he imagines Sisyphe was smiling when he does that.
Vous savez, c'est Albert Camus qui disait qu'il faut imaginer Sisyphe heureux. Et donc, oui, dans une certaine mesure, c'est un travail de Sisyphe, mais c'est un travail incontournable. Cela étant, je refuse l'idée que l'implantation d'une nouvelle colonie après l'évacuation d'Amona signifie que le combat pour évacuer Amona était inutile. Sur l'ensemble des affaires que mes collègues et moi-même avons traitées, et où nous avons réussi à faire évacuer des colonies non officielles, nous avons réussi à atténuer considérablement le phénomène d'invasion de terres privées. Entre 1995 et 2005, plus d'une centaine de ces hameaux ont été construits sur des terres appartenant à des Palestiniens, et depuis que nous avons lancé ces batailles judiciaires en 2005 et jusqu'à 2015, seuls 9 ou 10 nouveaux villages ont été construits sur les terres de particuliers palestiniens. Nous avons donc réussi à faire comprendre aux colons et au gouvernement que cela ne sert à rien de construire sur des terres palestiniennes privées. Est-ce que cela va faire cesser la colonisation? Pas du tout. Parce que le droit émane des tribunaux de l'occupant et ce droit ne va pas faire cesser l'occupation ou la colonisation. Mais ce sera l'un des outils dont le mouvement pour mettre fin à l'occupation pourra se servir.
Michael Sfar, la question est aussi de savoir ce qu'on appelle un succès. Parce que dans votre livre, vous expliquez que parfois vous perdez sur le plan juridique, mais que certaines défaites peuvent être des victoires. Est-ce que vous avez un exemple qui pourrait nous permettre de comprendre justement comment une défaite judiciaire peut se transformer en victoire?
Vos auditeurs ont peut-être entendu parler de Khan Al-Ahmar et de Souzia. Il s'agit de deux hameaux, des petits villages palestiniens qui abritent une douzaine de familles d'agriculteurs. Le gouvernement israélien avait décidé d'évacuer ces villages, d'en faire partir les occupants par la force. Ces deux villages ont entamé une procédure qui a gravi les échelons de l'appareil judiciaire, d'instance en instance, d'un tribunal à l'autre, et l'une a mis 11 ans et l'autre 17 ans avant qu'un jugement définitif ne soit prononcé. Dans les deux cas, les communautés ont perdu et la Cour a décidé que le gouvernement avait le droit de faire partir les habitants. Mais une décision interdisait l'expulsion des habitants pendant toute la durée de la procédure, justement. Et pendant toutes ces années, les communautés, des ONG et des militants ont lancé une campagne publique auprès des médias, des diplomates, de la communauté internationale et même des Israéliens. Et la procédure a donné le temps aux pressions publiques et politiques de prendre de l'ampleur. À tel point que dans le cas de Khan Al-Ahmar, non seulement des leaders internationaux ont officiellement condamné l'idée de déporter ces communautés, mais aussi le procureur du tribunal pénal international a déclaré que ces déportations équivaudraient à commettre un crime. Et finalement, on se retrouve en 2020 avec un gouvernement qui veut expulser ces communautés, un arrêt de la Cour qui l'y autorise, le gouvernement le plus à droite qu'Israël ait jamais connu, et ce même gouvernement n'ose pas procéder aux expulsions parce que la procédure a permis aux communautés de mettre ce temps à profit et de créer une pression qui rend toute déportation impossible aujourd'hui. C'est donc un exemple d'une affaire que nous avons perdue, mais qui a permis de remporter une victoire.
Tout dernière question à Michael Sfar. Le président américain Donald Trump a très récemment présenté un plan de paix pour le Moyen-Orient. Votre regard, Michael Sfar, sur ce plan, est-ce que ce plan ne risque pas de définitivement confirmer la domination d'Israël sur le peuple palestinien?
Alors, tout d'abord, pour moi, ce n'est pas un plan de paix. C'est un plan d'annexion, un plan qui permettrait à Israël de rendre permanente sa domination des Palestiniens. Les Palestiniens vivent une réalité juridique qui les prive de leurs droits civils depuis 53 ans dans les territoires occupés et ils font de nouveau l'objet d'une discrimination. Ils sont systématiquement opprimés et n'ont pas le droit à l'autodétermination politique, et cette situation existe au regard du droit international, mais en tant que la résultante temporaire de la guerre. Le droit international est très clair à cet égard. L'occupation doit être temporaire, devra cesser, et la puissance occupante doit tout faire pour mettre fin à l'occupation. Or, le plan de Trump permettrait à Israël de modifier cet état de fait. 30% des terres seraient sous souveraineté israélienne permanente, et les 70% restants, où vivent les Palestiniens, passeraient sous contrôle israélien. Il s'agirait d'une entité où les Palestiniens n'auraient aucune maîtrise des entrées et sorties de personnes et de marchandises de leur territoire. Ils ne pourraient pas signer certains types de traités internationaux, la Palestine ne serait pas un État, ce serait en fait une sorte de Bantoustan sous contrôle absolu d'Israël. On a déjà une situation où les Israéliens contrôlent les Palestiniens et les discriminent. Les Israéliens ont des droits et des pouvoirs selon le droit international, et les Palestiniens n'en ont pas. Lorsque cette situation deviendra permanente, on pourra parler d'apartheid. Je pense donc que le plan de Trump est un plan qui pourrait nous mener à un nouvel apartheid.
Merci infiniment, Michael Sfarad. Je rappelle que vous êtes avocat israélien, écrivain, activiste, et que vous venez de faire paraître en français donc Le mur et la porte, qui est paru aux éditions Zulma.
يوم عم نزيد شوف ايديت الكترة والحرية مش بالايد من يوم موعيت وانا بنت هاي البلاد بكاء اطفال وبسمة اولاد الارض صوبها اسود خيم علينا حداد بطلنا نعد احياء صرنا نعد اموات وانا بقول بكفي عاد بدي امسك قدري بكفي بكفي عاد البحر ميت انا وحدي طايشي مهتمي ومش مهتمي عارفي ومش عارفي طريق طويل انا لساتني بمشي.
Et un grand merci à nos deux invités, Stéphanie Latabdala, d'avoir été avec nous ce matin, ainsi que vous, Jean-Paul Chagnolo. Un grand merci à vous deux. C'est avec cette chanteuse palestinienne qu'on se quitte, que je ne connaissais pas, Maïssa Daou, qu'on va mettre évidemment la référence de ce titre sur la page de Culture Monde. On poursuivra demain notre série consacrée à la paix, faire taire les armes. Pour l'heure, 11h53, place à Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et vous nous amenez ce matin en Chine. L'épidémie de coronavirus peut-elle affaiblir le pouvoir chinois? Voilà la question que vous posez ce matin.
Cette épidémie est le plus important défi qu'ait eu à affronter Xi Jinping à ce jour. Selon certains observateurs, des villes entières, des villes importantes sont coupées du monde et la population chinoise vit dans la crainte de la contagion. L'économie du pays a été paralysée durant 2 semaines. Certes, le travail est censé reprendre ce matin dans l'ensemble de la Chine, mais l'image du pays est atteinte chez ses voisins comme dans le monde entier. Est-ce pour autant le début de la fin pour le pouvoir en place? On se souvient combien l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl a contribué à précipiter l'effondrement du régime soviétique. Tout à coup, est apparu en pleine lumière le fait que l'obsolescence de certains équipements avait été dissimulée à la population. Eh bien, parce qu'ils ont mis leur vie en danger, les gens n'ont plus supporté les mensonges lénifiants de leurs dirigeants chinois, la censure. L'épidémie de coronavirus peut-elle être le Tchernobyl de Xi Jinping, voire remettre en cause la domination du Parti communiste sur la Chine. Dans la tradition chinoise, lorsqu'une catastrophe frappe le pays, quelqu'un doit en assumer la responsabilité. Un dirigeant doit être désigné et puni. Alors le pouvoir central à Pékin s'est arrangé pour faire porter le chapeau aux autorités locales, celles de la ville de Wuhan. Elles sont coupables, en effet, d'avoir négligé les avertissements lancés dès la fin décembre par le docteur Li Wenliang. L'expertise de ce jeune ophtalmologue a été discréditée. La direction de la ville l'a accusé de propager de fausses nouvelles Ensuite, on a appris dans la presse chinoise que l'aide alimentaire et médicale dépêchée à Wuhan avait été détournée sur place par des dirigeants corrompus. La Croix-Rouge de la province de Hubei est sous le feu des critiques. Des dotations de matériel médical dont ses représentants avaient la charge ont bel et bien disparu. D'où la mise en scène par le pouvoir d'une prise en charge depuis Pékin de l'opération mise en place et sa militarisation. Xi Jinping l'a qualifiée de « guerre populaire contre le virus » et l'a confiée à l'armée populaire de libération. Il a menacé de sanctions exemplaires ceux qui désobéiraient. Il a dépêché sur place 1400 personnels de santé, dont 260 médecins militaires. A surgi de terre, on l'a vu en 8 jours, dans la banlieue de Wuhan, l'hôpital de Wuhan, qui est capable d'accueillir 1 millier de patients, un record dont bien peu de pays seraient capables, et certainement pas le nôtre, admettons-le. Alors le calcul de la direction communiste est de faire oublier les cafouillages du début en faisant preuve d'une efficacité exemplaire, de démontrer au peuple chinois et au monde entier que l'autoritarisme et le centralisme, qu'on dit souvent incompatibles avec les exigences d'une économie moderne, peuvent être des atouts. Alors qu'une démocratie libérale, parce qu'elle doit tenir compte de l'opinion publique, serait incapable, elle, d'une telle performance.
Mais Brice, l'autorité de Xi Jinping a néanmoins subi là un nouveau revers.
Eh oui, elle était déjà discrètement contestée, cette autorité, pour sa gestion de la crise de Hong Kong, pour la guerre commerciale avec les États-Unis, pour la défaite du candidat de Pékin aux élections à Taïwan. Mais on lui impute aussi le ralentissement de la croissance et c'est encore plus grave. Les économistes en Chine comme à l'étranger se demandent en effet si l'empire du milieu ne serait pas tombé dans le fameux piège du revenu intermédiaire ou « middle income trap ». Selon les auteurs de cette théorie, lorsqu'un pays atteint un certain niveau de PIB par habitant, eh bien, il perd l'avantage compétitif à l'exportation que lui procurait le bas niveau des salaires. Et il doit procéder à des investissements massifs afin de produire des produits et de fournir des services à forte valeur ajoutée. Sinon, il reste coincé entre les pays en développement qui ont des salaires faibles et les pays qui bénéficient des technologies de pointe comme le numérique et les robots. Face à tous ces déboires, la stratégie de la direction communiste chinoise a toujours été la même, incriminer des forces extérieures hostiles. Enfin, dans le cas du coronavirus, cette défausse ne tient pas, parce que c'est du cœur même de la Chine qu'est partie l'épidémie. Le mythe qui entourait et protégeait Xi Jinping ne tient plus, déclare à la presse internationale le fameux juriste Xu Xianggrun. Les observateurs notent que le président à vie n'est pas apparu sur les écrans de télévision depuis une quinzaine de jours. Selon son habitude, face aux crises susceptibles d'amoindrir son autorité, il a dépêché sur place un autre responsable de premier plan, en l'occurrence le premier ministre Li Keqiang, qui a fait le tour des hôpitaux de Wuhan le 27 janvier. Mais pourquoi, se demande l'opinion chinoise, pourquoi Xi Jinping lui-même n'a-t-il pas fait le déplacement dans la ville en quarantaine ? Sur les réseaux sociaux chinois, l'armée des offices de censure de l'État s'active comme jamais. Elle fait disparaître toutes les critiques du gouvernement, ainsi que les messages qui réclament la transparence sur les problèmes ou la liberté de parole. Un militant connu des droits de l'homme, plusieurs fois arrêté d'ailleurs, Xu Ziyong, a eu le temps de mettre en ligne le message suivant « La médecine ne sauvera pas la Chine, c'est la démocratie qui sauvera la Chine », avant qu'il soit supprimé par la censure.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr.